Seconde table ronde. Développer, valoriser et conserver nos entreprises en France. À quel prix ?
Bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur ce colloque éthique. Comment expliquer la panne de production française ? Deuxième table ronde avec ce thème, développer, valoriser et conserver nos entreprises en France, à quel prix ? Vous allez voir qu'on va avoir des bons coups de gueule et des bons coups de cœur aussi, on espère. Autour de cette table, on est ravis d'accueillir Marc-Antoine Jamet. Bonjour Marc-Antoine.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du groupe LVMH.
On ne peut rien vous cacher.
Et on va entendre votre grand patron dans quelques instants,
Mon
dans
Dieu.
Une vidéo. On va voir ça. En tout cas, on est ravis que vous soyez là parce que, évidemment, si le tissu industriel français et économique est fait par des milliers de petites entreprises, eh bien, il nous faut aussi des champions et LVMH en est un et même européen, voire mondial. À vos côtés, on est ravis d'accueillir aussi René Hans. Bonjour René.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de Capital Initiative et avec vous, on va voir les difficultés pour justement ces TPE, ces PME, notamment à l'heure où le financement bancaire est en train de se tarir. Le robinet se coupe. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Comment prévenir des catastrophes et garder nos emplois et nos énergies en France ? À vos côtés, Joseph Taïfé. Bonjour Joseph.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de Plast Alliance. Habitué du colloque éthique. Avec vous, on verra effectivement l'industrie du plastique. C'est vrai qu'il a été dénigré. On a eu un peu de plastique bashing. Est-ce que ça va mieux ? On va voir que là aussi, c'est une industrie qui peut être porteuse de pas mal d'innovations, d'emplois et qui doit être mieux considérée dans notre pays. Voilà, on démarre tout de suite. Si vous le voulez bien, je vous propose d'écouter Bernard Arnault, qui dans quelques instants va nous présenter effectivement quelque chose de symptomatique. C'est Sophie de Menton qui a voulu l'écouter et l'entendre. Marc-Antoine Jamet, juste présentez-nous le contexte avant qu'on voit cette vidéo.
Je crois que cette vidéo, si c'est celle que je crois, on est dans l'Assemblée Générale, il y a une question d'un actionnaire tout à fait normal. Vous aviez un grand projet, un projet polytechnicien, un projet scientifique, un projet d'avenir, vous l'avez abandonné, pourquoi ?
Oui. LVMH, une question, là, juste avant qu'on écoute Bernard Arnault. C'est passé, première capitalisation boursière européenne,
oui.
Un groupe de plus de 500 milliards. C'est vrai qu'on a besoin de ces champions, je le disais, le champion européen, mais pas seulement, ça fait aussi vivre des milliers, des dizaines de milliers de personnes en France, en Europe, dans le monde.
On a besoin d'un champion industriel d'abord, parce que comme dans toute catégorie sportive, l'économie qui est aussi un sport a besoin d'avoir des champions. Ici, si on tricolore, tant mieux. Je ne pense pas que les États-Unis soient tristes d'avoir Apple ou d'avoir Google. Je ne pense pas que la Chine regrette d'avoir Alibaba. Je ne pense pas qu'un certain nombre de pays regrettent d'avoir des grands champions. Les champions entraînent les autres. Les champions, c'est un écosystème. Les champions, c'est aussi de l'emploi, et vous avez raison de le dire. Le groupe LVMH, c'est 196 000 emplois, il y a à peu près un quart en France, et qui est un emploi qui est souvent d'ailleurs un emploi d'aménagement du territoire, comme le faisait la Datar autrefois. Les 18 sites de Louis Vuitton sont plutôt dans des territoires qui ont connu des difficultés. Je pense par exemple à la Drôme ou à l'Ardèche, qui avaient connu le désastre ou la débâcle de la chaussure. Le fait que des ateliers de Vuitton reprennent un savoir-faire et s'y installent, ce n'est pas simplement une économie internationale, c'est aussi une économie locale qui fonctionne. On a des économies qui sont profondément racinées dans les territoires. Je pense au champagne ou au cognac. On nous dit « vous allez délocaliser ». Délocaliser le champagne, ça va être compliqué. Délocaliser le cognac, ça ne va pas être évident. Mmh. Et puis, quand on prend les parfums et cosmétiques, il n'y a pas plus français ou hexagonal que le triangle Tours-Orléans-Chartres. C'est les châteaux de la Loire, c'est le jardin de la France, où vous trouvez aussi bien Guerlain que Dior. Donc, on est une entreprise profondément française, profondément enracinée dans la France, et qui, je le pense, favorise à peu près partout, ces équilibres sociaux, ces équilibres locaux, ces équilibres économiques.
Alors justement, tiens, on a recalé la vidéo. On écoute Bernard Arnault, le patron de LVMH, qui répond justement à une question de l'actionnaire. Tout de suite.
Toutes nos centres de recherche, vous savez qu'on a eu quelques petits problèmes avec le centre de recherche qu'on devait installer à un moment à côté de l'école polytechnique. Bon, et je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça parce que ça serait trop long, mais finalement, les Français sont les Français. Ils sont venus faire du sitting sur l'endroit pour expliquer que c'était pas bien du tout d'avoir une entreprise capitaliste qui s'installe à cet endroit-là, où vous voulez quand même investir 100 millions, embaucher 100 chercheurs. Vous avez dit non, il vaut mieux que ce soit l'État qui le fasse. Bon, on va voir, pour l'instant c'est un champ vide, il y a quelques grenouilles qui se promènent au milieu, et on verra dans 20 ans s'ils ont fait quelque chose. En tout cas, nous, on a arrêté les frais, c'est pas la peine de s'énerver, et on va ailleurs.
où là on est bien reçu. On était d'ailleurs invité dans le monde entier, hein, et notamment en Angleterre, dans des universités prestigieuses qui non seulement voulaient nous avoir, mais voulaient nous subventionner. Comme nous sommes de bons Français, on va quand même rester en France. Vous voyez, on est quand même, voilà, malgré toutes les critiques des uns et des autres, on reste quand même attaché à la France.
On reste attaché à la France, dit Bernard Arnault, malgré effectivement cette levée de boucliers qu'on voit également, hein, avec Louis Le Duf, effectivement, qui met 10 ans, plus de 10 ans, à installer son usine. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a ce désamour des industriels qui veulent pourtant créer? Alors c'est sûr qu'il faut construire, on peut pas garder les petites grenouilles. Et le plein champ. Mais à un moment, c'est aussi les emplois de demain.
Je pense que le problème de Gaïa sur le plateau de Saclay à côté de Polytechnique, c'est la théorie du complot qui nous a emportés. Il y a une chose assez simple. Demain, si on veut que la France soit première dans les arts du luxe, dans l'art de vivre à l'européenne, il faudra que nous ajoutions à Marcel Proust, Victor Hugo, les châteaux de la Loire et le château de Versailles, la renommée culturelle que nous vendons avec nos produits, mais qu'également nos produits portent. Nous sommes ambassadeurs de la France, de sa culture. Une autre avancée française, qui est celle du progrès, la science et des techniques. Demain, le client chinois ne demandera pas simplement si véritablement on est capable de réciter du Verlaine en même temps que on offre un Chalimard ou que on déguste un excellent champagne, mais demandera également qu'on soit absolument sûr de la sécurité du consommateur, de la protection de l'environnement et de la performance de l'innovation. Performance de l'innovation, c'est ce qui fera le gap demain et qui continuera de nous permettre de faire la course en tête. Donc, une idée, faire un grand centre de recherche. Et à ce moment-là, il y a deux idées chez Bernard Arnault. Il y a une idée, mais comment les gens ne peuvent pas le comprendre? Affective, amicale, par rapport à lui-même. J'ai aimé Polytechnique, vous avez peut-être aimé vos études, pas aimé vos études, il a aimé Polytechnique. Pour lui, c'est le souvenir de la taupe au lycée Fédère, c'est le souvenir d'années où, vous savez que c'est un champion de mathématiques, des échecs et d'un certain nombre de disciplines abstraites, très fort, très plein de couture. Il dit, je vais le faire à côté de Polytechnique. Car c'est un endroit qui est une bonne idée. Et par ailleurs, il y a une combinaison publique-privée, recherche fondamentale, recherche appliquée, qui me paraît très très bonne. La recherche appliquée va aider la recherche fondamentale va irriguer. C'est une extraordinaire idée. Et là on dit, ouh, on a bien compris. Vous souhaitez que l'ensemble de la recherche française se dirige vers des rouges à lèvres. Notre programme, c'était intelligence artificielle, objets connectés, chimie verte, nouvelles molécules, l'ensemble des sciences dures qui sont demain la force de la France. Et donc, on a simplement perdu quelque chose qui est à Séoul, quelque chose qui est dans la Silicon Valley, quelque chose qui en Israël aurait été considéré comme une règle normale, c'est-à-dire qu'on va mettre l'entreprise à côté de l'université, avec que des bonnes intentions. Résultat, comme le dit Bernard Arnault, on croule. Alors, il y a ceux qui nous disent dans la région parisienne, venez chez nous. Il y a ceux qui nous disent en France, venez chez nous. Il y a ceux qui en Europe nous disent, venez chez nous. Et il y a ceux qui nous disent, évidemment, dans le monde, venez chez nous. Je pense que Bernard Arnault est un patriote qui aime profondément son pays et qui voudrait le voir en avant. Donc, nous ne le ferons pas. Mais très franchement, être reçu aussi bêtement. Et il y a une deuxième chose, pardonnez-moi, je rajoute juste un codicille. Toujours au nom du même amour polytechnicien, que je ne partage pas, je crois avoir arrêté mes études scientifiques au niveau de la troisième, ce qui est un stade un peu plus précoce par rapport à Polytechnique, l'idée que l'ancienne école polytechnique au sommet de la montagne Sainte-Geneviève peut devenir une chose extraordinaire, un centre de congrès, de colloques, de séminaires où les prix Nobel, où les plus grands chercheurs, ces gens qui sont en train de se battre et qui sont français pour certains d'entre eux, pour faire que demain l'intelligence artificielle soit humaine, régulée et au service de l'homme, par exemple dans le domaine de la santé. Bernard Arnault imagine cela. C'est une chance extraordinaire, c'est une sorte de cadeau. Mais cela, sans la moindre, je dirais, contrepartie, j'en fais, oh là là, on voit bien, vous allez, je ne sais pas, inviter vos amis. Parfois, sur des gestes simples, il faut avoir une compréhension simple et des réponses simples, une attitude simple. Je pense qu'un certain nombre de gens ont manqué de simplicité. Ils doivent être un petit peu compliqués, très parisiens.
Merci pour cette introduction, Marc-Antoine Jamais.
Vous me l'avez demandé, pas permis.
Un peu. Bon, alors pas forcément matheux, mais bon, quand on fait les nains, on a d'autres qualités, évidemment. René Hans, vous, je voudrais vous entendre sur, effectivement, vous connaissez bien les petites et les moyennes entreprises qui peuvent être d'ailleurs sous-traitants de grands groupes de plans.
Nous avons également des petites et moyennes entreprises. Tout le monde n'est pas Louis Vuitton. Je dirige pour le groupe LVMH une toute petite entreprise qui s'appelle Jardin d'acclimatation, 400 salariés, tout à fait modeste.
Dites-nous, vous étiez encore hier quand je vous ai contacté pour parler de ce colloque, aux prises avec des drames sur le terrain. C'est vrai, des gens qui n'arrivent plus à se financer, qui ont des outils de production, qui peuvent vraiment s'en sortir, mais là, qui se trouve face au refus des banques de poursuivre ou de continuer le financement.
Non, c'est vrai que nous tombons de haut par rapport à ce que vous êtes, et vous avez toute mon admiration. Moi, je suis le pauvre porte-parole de ces petites entreprises. Je rappelle toujours que 93% des entreprises, sur les 3,3 millions que nous sommes, ont moins de 10 salariés. 98% des entreprises ont moins de 50 salariés. Ça veut dire, monsieur, il est vraiment dans les 2% les plus gros, pour lesquels j'ai la plus grande admiration, je le répète, mais ces petits souffrent. Il n'y a pas de financement pour la petite entreprise. Le Français qui crée son entreprise, il crée son emploi. Il part avec pas assez d'apport personnel et donc il n'est pas finançable par la banque. Ce que j'ai entendu ce matin, notamment par exemple, on parlait des normes tout à l'heure. On impose, l'État impose des normes à des restaurateurs, à des hôteliers. 3000 hôtels en France ne sont pas en normes. Ils sont menacés de fermer de 3000.
3000.
Alors on impose de faire des travaux et ces travaux, personne ne s'interroge comment on va financer. On a eu un reportage sur Arte dans lequel il y avait, dans une vallée alsacienne, ça s'entend mon accent, un restaurant qui a été, on lui a imposé des travaux de normes. Il a profité du PGE qui n'a pas suffi pour financer ses travaux. Il manquait 300 000 euros. Les artisans étaient remontés contre lui, on était allés jusqu'à des menaces de mort. Capital Initiative, qui est le modèle de rachat temporaire d'actifs, lorsqu'une entreprise in bonis a un besoin de financement que la banque ne fait pas, nous rachetons un actif pour le relouer. Nous avons racheté les murs de cet hôtel et tous les entreprises ont été payées. L'hôtel tourne toujours. J'ai un deuxième
cas. Vous avez terminé les travaux, du coup ?
Oui, bien sûr. Non, les travaux étaient finis, mais pas payés.
D'accord.
Les travaux étaient finis, pas payés. Et depuis un an, les artisans, qui étaient eux-mêmes en danger, je rappelle quand même qu'en France, une entreprise, 25 pour une entreprise sur 4 qui dépose son bilan, est elle-même victime d'un impayé. Et l'effet domino, quand le banquier vous écrit « Vous avez un découvert de 50 000 euros, c'est tout petit pour monsieur, mais demain vous ne l'avez plus », qu'est-ce que fait l'entrepreneur ? D'abord, il ne le dit à personne, il vient nous voir, nous, quand c'est trop tard, et il ne va plus payer ses fournisseurs pour régler le problème financier qu'il a là. Parce qu'avoir un problème avec la banque, c'est une honte, on ne le dit pas, et on a peur que les clients vont fuir, on a peur que les fournisseurs vont fuir. Donc il y a un problème réel, et je voulais dire, pour ceux qui sont aux normes, ceux qu'on a financés, ceux que les banques n'ont pas financés, ils ne font pas, ils ne sont pas en normes, ils sont toujours des criminels à la limite, parce qu'on dit qu'il faut avoir un mort chez vous, n'est-ce pas ? Ceux qui ont été financés, ceux qui n'ont pas été financés, on a pu faire quelque chose pour eux. Mais il y a aussi ceux qui ont été financés par la banque. On ne se pose pas de question de l'importance de la somme. Et lorsque ce financement est en place, nous avons maintenant un autre hôtel que nous sommes en train de financer. Il a eu son financement, mais sa capacité d'autofinancement ne permet pas de rembourser l'emprunt qui lui a été accordé. Donc voilà, et c'est énorme. Je dis qu'en entreprise en difficulté, il y a un grave problème. Il est interdit à un banquier, par la loi, de financer une entreprise en difficulté. Des exemples qui sont donnés, je pense à cette dame qui a témoigné récemment pour nous, que vous trouvez sur les sites. Mmh. Elle est en plan de continuation. La camionnette pour faire les livraisons est en fin de leasing. Il faut l'acheter pour 11 500 euros. Pour 11 500 euros, pas une banque ne finance. Capitalise Initiative va racheter la camionnette pour lui la relouer. C'est le rachat temporaire d'actifs, c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui...
Donc vous achetez l'actif, vous relouez à la personne,
tout
voilà,
à fait.
En étalant des mensualités qui seront payées.
Sur une durée à définir, puisque pour arranger, on fait les calculs. Ouais. Et aujourd'hui, cette personne, elle a 25 salariés, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand elle a raconté son histoire, elle était elle-même étonnée. Dire que pour 11 500 euros, j'ai failli disparaître. Ouais. Tous ces emplois sont perdus. On peut parler de réindustrialisation et tout, mais il y a un tissu de petites entreprises dans notre pays qu'il ne faut pas laisser mourir avec l'augmentation de l'énergie. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de promoteurs ne savent plus aujourd'hui à quel prix ils vendent. Ils ont, je pense à mon chat qui vend de confiture, comme monsieur le maire dit, attendez, il faut diminuer vos prix de vente, mais les composants qui font le coût du produit, les verres qu'il a achetés, les fruits qu'il a mis, le sucre qu'il a acheté, il ne connaît pas il est impossible de connaître aujourd'hui son prix de revient. Et les supermarchés lui imposent un prix de vente qu'il ne connaît pas. Il va fabriquer des pertes. Et en fabriquant des pertes, effet domino, ça va être une catastrophe parce qu'aucune banque va les financer. C'est normal que les banques ne les financent pas. Nous avons besoin des banques pour nous refinancer, nous. Et il faut en France un modèle de financement alternatif, quel que le mien. Je suis un bénévole depuis 20 ans dans ce domaine.
Bon, je vous avais promis, hein, justement, des coups de gueule. Hein, je vous l'avais dit, ça serait animé cette table ronde. Réaction Marc-Antoine Lamet, après on poursuit le tour de table.
Non, mais le coup de gueule est tout à fait compréhensible et il serait triste que l'initiative ne soit pas assez récompensée. L'audace, l'envie de créer, l'envie d'être entrepreneur. Trois points simplement. On ne peut pas opposer les grandes entreprises et les petites entreprises. D'abord, comme je l'ai dit, parce que dans le groupe LVMH et ses 76 maisons, il y a un certain nombre de petites entreprises, voire de très petites entreprises. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'un certain nombre d'emplois indirects sont générés par les grandes entreprises. On a 196 000 salariés. On dit parfois qu'on crée 4 fois plus de salariés que nous n'en avons dans des entreprises qui sont généralement petites ou moyennes. Et puis, la chose la plus importante, moi, je préside la Cosmetic Valley, qui est un pôle de compétitivité. Autour de Guerlain, autour de Dior, on trouve l'ensemble de la chaîne de valeur. Ce qu'on oublie généralement de dire, on célèbre la Silicon Valley, pas assez la Cosmetic Valley, c'est-à-dire l'olfaction, la formulation au début, les tests, le packaging au milieu, le dédouanement, l'expédition à la fin, l'ensemble de la chaîne de valeur. On serait en Allemagne, on serait BMW, Mercedes, Audi et Volkswagen, on dirait c'est un tissu industriel à l'allemande, et on dirait c'est fabuleux. Là, on le fait avec 80% des adhérents de la Cosmetic Valley, tirés par L'Oréal, tirés par les géants, bien évidemment, parfois étrangers, Shiseido et Estée Lauder, sont des PME. Donc, il y a des écosystèmes où grandes entreprises et petites entreprises sont évidemment solidaires. Et voilà, la cosmétique, en France, ce sont des petites entreprises tirées par des grandes. On pourrait dire également les vignerons de champagne, puisque vous savez, ou de cognac, sont généralement pas des gens qui ont 3000 salariés. Voilà, donc il y a quand même les grands et les petits. Mais j'entends le coup de gueule et j'entends surtout la vigueur, la sincérité, la force, ponctuée de cet accent alsacien, qui nous donne en plus un sérieux terrible. Nous, on part avec 3 mètres en arrière de vous, parce que vous avez la crédibilité et la légitimité, nous, on ne l'a pas. Mais on essaiera de dire qu'on est solidaires quand même.
Je l'ai dit, j'ai une admiration pour ce que vous faites. Et tout le monde vous admire comme je le fais moi. Par contre, mes petits dont je parlais n'intéressent personne.
J'ai entendu nos que vous appréciez Monsieur le maire.
Nos gouvernants ne savent même pas ce que c'est une entreprise. Je ne veux pas citer le ministre ou l'autre, les déclarations qui ont été faites sur l'échec. C'est inadmissible. Ça prouve qu'ils ne comprennent rien à l'économie de notre pays. Ils ont des hautes fonctions.
On poursuit le tour de table avec Joseph Taïfé, secrétaire général de Plastalliance. Joseph, bah tiens, petite réaction déjà au débat qu'on a ouvert, effectivement. Alors, on est dans développer, valoriser, conserver nos entreprises en France. À quel prix? On voit que c'est compliqué. Et c'est pas plus facile, c'est vrai, peut-être pour... il y a d'autres batailles sur les grandes, mais c'est vrai qu'elles focalisent la lumière, ces grandes entreprises, alors que le vrai tissu économique français, il est là. Il est dans les milliers, les dizaines de milliers d'entreprises qu'on côtoie au jour le jour.
Alors déjà, concernant le pot de confiture, le conseil que moi je peux donner, c'est de suivre un peu l'exemple LVMH, qui a remplacé quelques gammes parfois de bouteilles de vin en verre par du plastique recyclé. Je crois que c'est de Château Galoupé, il me semble. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher, moins de CO2, moins d'émissions de gaz à effet de serre, beaucoup plus léger à transporter, exactement. Aujourd'hui, c'est le bilan carbone. Donc, il y a des solutions. Quand on m'a demandé de participer à ce colloque, comment expliquer la panne de production? Est-ce que j'ai une panne de production à présenter au niveau de la plasturgie? Alors, heureusement ou malheureusement, non. La plasturgie française est une industrie qui se porte, on va dire, globalement, très très bien. Et j'ai envie de dire, ma présence aujourd'hui ici, c'est surtout pour empêcher qu'une panne de production, on va dire, ultérieure arrive, et de ne pas attendre, on va dire, un peu ce qui s'est passé, ce qu'on a eu avec le nucléaire, c'est-à-dire que le problème soit, on va dire, arrivé pour essayer de trouver des solutions pour rattraper le temps perdu. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une industrie plastique, et je le redis à Satiété, qui est quand même la troisième européenne au niveau en termes de production. On était, il y a 20 ans, deuxième. Donc déjà, on commence tout doucement, on va dire, à reculer. Il y a 20 ans, on avait 4000 entreprises de plasturgie. Aujourd'hui, on est 3000. On est quand même toujours les deuxièmes en termes de brevets, d'innovation sur le recyclage et ce qu'on appelle les bioplastiques, hein, c'est en termes de pas derrière les Allemands. Et pourtant, bah par exemple, je prends un exemple concret dans lequel la Commission européenne d'ailleurs vient de statuer, c'est que la France est dans les derniers Européens en termes de recyclage. Voilà, on a aucun investissement qui a été fait, on va dire vraiment de manière très très concrète et de manière massive sur le recyclage des emballages. Les Allemands, les Néerlandais, les Espagnols avancent sur le sujet. En France, on ne sait toujours pas aujourd'hui recycler des pots de yaourt en polystyrène. On est quand même, c'est quand même scandaleux. Alors qu'en Allemagne, vous pouvez le faire, en Espagne, vous pouvez le faire. faire.
Qu'est-ce qui manque, Joseph Taffier?
Bah, tout simplement des investissements. C'est qu'en fait, aujourd'hui, vous avez un problème en fait, où l'État a abandonné, en fin de compte, la gestion des déchets. Hein, parce qu'il ne faut jamais oublier que le problème du plastique tel qu'il a été présenté depuis 2018, on va dire ce qu'on appelle le plastique bashing s'il est monté en puissance, c'est qu'en fait, c'est au moment où la Chine a refusé de prendre les déchets, on va dire, des Occidentaux. Et là, les gens se sont rendus compte qu'effectivement, bah, les déchets, en fin de compte, ce qu'on mettait dans notre poubelle, bah, en fait, n'était pas traité localement, mais était envoyé à l'étranger. Et c'est là qu'effectivement, on a eu, on va dire, un plastique bashing qui est monté en puissance, et avec toutes les images que l'on voit, qui sont d'ailleurs pas françaises, ou même européennes, qui sont à l'autre bout du monde, dans lesquelles on voit effectivement des déchets, des baleines, des dauphins, des poissons qui sont emprisonnés dans du plastique. Et aujourd'hui, bah, la France, bon, elle commence, on va dire, à réagir. Je dis pas qu'on va dire, on peut pas dire que tout est mauvais, mais on a pris énormément de retard, et j'ai entendu très récemment le président Emmanuel Macron se réjouir, et avec raison d'ailleurs, de l'installation en France d'une usine par Carbios qui va être quasiment la première mondiale, qui va recycler ce qu'on appelle le PET de façon enzymatique. Très bien. Mais de l'autre côté, bah, vous avez des fonctionnaires de l'administration, vous avez un ministère de l'écologie qui vient vous dire, ben non, on va réduire le nombre de bouteilles. Très bien, mais s'il y a moins de bouteilles en circulation, on va avoir un problème pour pouvoir avoir de la matière pour recycler. Aujourd'hui, vous avez un problème, enfin, je veux dire, c'est quand même un scandale d'État, c'est la qualité de l'eau potable en France. Oui. Voilà, moi je veux bien qu'on passe à des gourdes et qu'on nous dise, écoutez, prenez l'eau du robinet. Moi je bois pas l'eau du robinet, je n'ai pas confiance, hein, j'ai pas confiance du tout. Vous avez tous les cas, tous les matins, vous avez un article de journal dans lequel vous avez des...
je sais pas, nous on dit que l'eau de Paris est plutôt bonne.
En tous les cas, moi, ce que je sais, c'est que la Commission européenne a ouvert une procédure d'infraction contre la France, déjà, pour la qualité de l'eau, hein, très récemment. Donc, en l'occurrence, l'Union européenne réagit. Et donc, en l'occurrence, les bouteilles d'eau, on en aura besoin. Donc, on est dans une industrie dans laquelle on ne pourra pas s'en passer. Qu'on le veuille ou pas, l'industrie plastique est là, la santé, les emballages, l'aéronautique, l'automobile, etc. Nous, ce qu'on dit, c'est que ce qu'on demande, et là, à la rigueur à l'État, et pour éviter cette panne de production, c'est non pas même pas des subventions, hein, on ne demande même pas d'argent, on ne demande rien. On demande juste qu'ils nous laissent tranquilles. Voilà. C'est, parfois, ne rien faire, c'est mieux que de faire parfois quelque chose. C'est-à-dire de nous laisser. Et surtout, et là, je compatis avec effectivement la situation également des LVMH, mais vous n'êtes pas les seuls, effectivement. On a une mouvance, et j'ai bien envie de dire que c'est une mouvance qui est très, très active, on va dire, au niveau français, plus que d'ailleurs dans d'autres pays. Moi, les écologistes français, j'aimerais bien les voir agir en Chine ou aux États-Unis comme ils le font en France. Mais en l'occurrence, ils n'ont pas la même, on va dire, la même écoute. Et en fin de compte, nous sommes aujourd'hui soumis à des groupes de pression qui, d'un point de vue électoral, ne représentent rien. Je suis désolé de le dire, ça ne représente rien. Une minorité, mais qui a, on va dire, des relais médiatiques, des relais, on va dire, de communication et de marketing sur les réseaux sociaux très, très puissants. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'il faut essayer de savoir, en fin de compte, qui sont derrière ces réseaux. J'avais vu il y a quelque temps un article, notamment pour le nucléaire, dans lequel on avait appris que les réseaux, effectivement, nucléaires, anti-nucléaires français étaient, on va dire, soutenus quelque peu, on va dire, de l'étranger. Donc il faut essayer de savoir d'où viennent, on va dire, ces réseaux qui luttent contre notre industrie, parce que c'est une lutte contre notre souveraineté, c'est une lutte contre le progrès industriel, parce que ce que nous ne ferons pas ici, ce sont les étrangers qui le feront.
On entend en creux « laissez-nous faire, laissez passer ». Voilà, la formule est connue pour cette baisse de l'intervention de l'État, peut-être dans le monde, dans le système économique. Marc-Antoine Jamais, votre sentiment, parce que depuis ce matin, c'est vrai qu'on parle de contraintes, d'emmerde, c'était le mot tout à l'heure qui a été employé, de faire avancer, de travailler, de produire plus avec cet ensemble de normes et cette inflation normative. Qu'est-ce que vous en pensez ?
La réalité, c'est qu'on est davantage gouverné par les normes que par les idées, et par les normes que par les hommes. C'est assez clair.
Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un problème ?
Il y a probablement un problème quand on regarde aujourd'hui l'État. Enfin, il y a des chiffres. Il y avait en 1980 100 000 médecins. Il y en a aujourd'hui 225 000. Et pourtant, on n'arrive pas à trouver un médecin. Que font les médecins? On le sait, pendant un tiers ou un quart de la consultation, ils remplissent le dossier administratif que la Sécurité sociale leur a demandé de remplir. On donne quand même plus d'argent à l'école et elle semble avoir plus de difficultés. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté en termes de légèreté. Quand on calcule le nombre des agences des autorités administratives indépendantes. Très utile. Moi-même, je suis issu de la Cour des comptes et je suis fonctionnaire. Donc, à l'origine, je ne peux pas en dire du mal. Mais c'est vrai qu'il y a un foisonnement, un maillage qui est très fort. Maintenant, la réglementation est nécessaire. On est un des secteurs les plus réglementés au monde. Je pense que la cosmétique est réglementée à la fois par la réglementation européenne, la réglementation française se retrouve face aux réglementations américaines, japonaises et chinoises. Quand on fait des vins et spiritueux, on est évidemment dans l'agroalimentaire. Peu de secteurs qui soient autant réglementés. Je pense que c'est un instrument de confiance et de légitimité. Si on vend en Chine, on vend le Made in France. Et qu'est-ce que c'est que le Made in France? On l'a dit tout à l'heure, c'était la performance de l'innovation, mais c'est aussi la sécurité du consommateur, la protection de la planète et l'authenticité des produits. Donc, oui, il y a une réglementation qui accompagne, qui protège. Non, il y a une réglementation qui serait inutile, c'est clair. Les normes ont leur intérêt. Ce qui est dommage parfois, c'est qu'on a l'impression qu'elles sont facteurs à la fois de lourdeur et de lenteur, ce qui n'est évidemment pas le temps de l'entrepreneuriat. Il y a besoin de souplesse et de rapidité. Oui, à la protection du consommateur, nous, on freine aux entrepreneurs, d'une certaine façon.
Ouais. Non, on freine aux entrepreneurs. Et pourtant, c'est vrai que...
On a une administration en France qui s'est bloquée, contrôlée et sanctionnée. Elle n'est jamais là pour nous aider.
Vous savez quelle est l'administration que les Français plébiscitent comme l'administration qui fonctionne la mieux? C'est l'administration des impôts.
Les impôts. Donc,
on pourra faire un débat une autre fois. J'ai quelques contrôles qui me viennent. Vous n'imaginez pas à quelle sauce sont mangés ces petits entrepreneurs.
Mais c'est une sorte d'illustration de ce que vous dites. C'est-à-dire que l'administration que les Français considèrent comme celle qui marche le mieux...
sanctionne.
C'est celle des impôts. À côté, je crois qu'ils mettent la gendarmerie et la police. C'est donc toutes les administrations verticales, les administrations de contrôle. Vous n'avez pas tort, apparemment. C'est même un sentiment que ceux qui en sont les victimes.
Vous devrez aider quand même. La fonction publique devrait nous aider à mieux entreprendre.
Vous êtes quand même, j'espère.
Pas beaucoup. Rarement. Au niveau des normes, j'ai réuni un panel de chefs d'entreprise pour qu'ils nous parlent dans les hôtels, parce qu'il y a beaucoup d'hôtels en Alsace, puisque c'est une région touristique. Comment sont appliquées les normes? Les gens qui viennent contrôler, on vous dit maintenant il faut mettre une porte ici. Le suivant qui passe, pourquoi vous avez mis une porte? Il faut l'enlever. C'est la jungle. C'est des incompétents qui viennent donner des instructions. C'est inadmissible.
Alors, est-ce que je peux rajouter juste un point
Tété, oui, tout aussi modéré, n'hésitez pas.
Non, mais le problème de la norme, ça peut ne pas être un problème si tout le monde, on va dire, est sur les mêmes normes. C'est-à-dire qu'on part tous sur la même ligne de départ et qu'on a les mêmes règles pendant tout le long du jeu.
D'où créer des standards français et européens et éviter de subir les standards chinois et américains qui, clairement, sont des machines de guerre pour faciliter leurs propres produits. Je vous rejoins, la naïveté doit quand même à un moment cesser.
Tout à fait. Alors vraiment, même standard, vraiment, je dirais effectivement européen, pour nous, c'est l'alpha et l'oméga. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, le marché commun, on peut dire ce qu'on veut, il y a quand même effectivement un énorme avantage, c'est que ça permet d'avoir, au niveau de l'ensemble des pays de l'Union européenne, des normes effectivement de santé, d'hygiène, le plastique notamment, si on parle du plastique, on est quand même le matériau le plus normé de l'Union européenne, contrairement au carton. Donc en l'occurrence, ça permet d'assurer justement la sécurité alimentaire, la sécurité du packaging, la sécurité de tout ce qu'on fait. Et ce qui se passe en France, c'est qu'on nous dit, on entend beaucoup d'Europe bashing aussi, hein, il n'y a pas que du plastique bashing, il y a aussi de l'Europe bashing ces derniers temps. On nous dit, mais l'Europe, ils nous cassent les pieds. Non, moi je vous le dis franchement, par exemple pour la partie plasturgie, c'est aujourd'hui la France qui crée des normes qui vont au-delà de ce que l'Europe a prévu. Je veux dire, ni l'Allemagne, n'a prévu de la fin des plastiques à usage unique en 2040. Il n'y a aucun pays européen qui l'a prévu. D'ailleurs, ça n'arrivera jamais. Mais en l'occurrence, c'est la France. Donc c'est pour ça, je le dis de manière, on va dire, sincère vis-à-vis également du président Macron. Quand j'ai entendu qu'il voulait une pause environnementale au niveau de l'Union européenne, je trouvais ça un petit peu culotté. Parce que justement, je trouve que la France, elle, va beaucoup plus loin, on va dire, que ce que l'Europe exige en matière environnementale. Et les fonctionnaires, on parle des fonctionnaires, les fonctionnaires de Bruxelles, je pense qu'il serait intéressant de voir comment ils travaillent, parce qu'en tous les cas, nous, ce qu'on voit, c'est effectivement qu'ils sont, on va dire, ils travaillent avec, on va dire, le privé de manière, on va dire, beaucoup plus ouverte que ce qu'on peut avoir en France, on va dire.
C'est un vrai souci, Marc-Antoine Jamais, que vous soulignez, c'est-à-dire que dans la compétition internationale, donc vous êtes en plein dedans, on a l'impression que des fois, on regarde par le petit bout de la lorgnette à faire des normes ou à créer de la norme pour ce qu'il faudrait faire en France, comme si on allait lancer le là pour toute la planète, alors que le reste du monde, finalement, pense aussi plutôt à ses intérêts et pousse ses industriels. Est-ce qu'on n'a pas un risque de décrochage justement à essayer de, comme je disais tout à l'heure, laver plus blanc ou plus vert que vert ?
Il y a une chose qui est totalement vraie qui vient d'être dit, c'est l'espoir pour la France d'être le bon élève de l'Union européenne. Et du coup, il y a cette espèce de mouvement de surtraduction des normes européennes dans le, ouais. dans le droit français que j'ai noté également. C'est-à-dire l'Union européenne, mais vous ferez ça dans 10 ans, la France dit vous ferez ça en 5 ans, vous ferez ça à 95%, la France rajoute vous ferez ça à 99%. Il y a ce désir d'être un bon élève qui est un peu caricatural parce que j'oppose parfois à tort, parce que ce sont deux secteurs essentiels, la cosmétique à la santé et à la chimie. La santé a évidemment un avantage très fort sur la cosmétique, c'est qu'elle guérit les gens et des maladies. Donc on peut être compréhensible. Voilà. La chimie qui est allemande et qui est puissante n'est absolument pas encadrée comme par exemple la cosmétique, ou avec la même dureté ou avec la même rigidité. Et donc c'est vrai que parfois on agit par naïveté, qu'on se retrouve avec des secteurs dans lesquels on est champion et où on accepte qu'une majorité d'États européens nous impose des règles qui sont trop fortes. Maintenant ces règles, il faut le reconnaître également, je le redis, si le client chinois qui a connu du lait frelaté, qui a connu un certain nombre de contrefaçons, estime que les produits français sont les meilleurs, et il a raison, c'est aussi parce que dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de la machine à outils, dans le domaine du nucléaire, dans le domaine du luxe également, il a l'assurance que les réglementations domestiques lui apportent une garantie totale. Il ne croit pas obligatoirement à la réglementation de son propre pays. Je peux parler du consommateur indien ou d'autres consommateurs également. Et en revanche, il croit à la réglementation européenne. Donc, il y a à la fois une blessure, une difficulté, une lourdeur. Il y a en même temps un avantage comparatif sur les autres. C'est la certitude ou à peu près que l'Europe, la France, sont des pays qui sont administrés au bénéfice de ceux qui en sont les citoyens. Ce qui est quand même une chose qui caractérise les démocraties souvent.
René Hans, là, pour quel donc vous nous avez fait un constat assez dur, hein, effectivement, de cette situation des petites et moyennes entreprises,
réaliste
effectivement. Les pistes de solutions, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement alléger peut-être le fardeau? Alors, le besoin de financement, voilà, le fonds de roulement, c'est quelque chose qu'on connaît, notamment pour les entreprises en croissance. Mais à un moment, voilà, vous demandez aussi plus d'écoute, plus de la part des, peut-être pas des pouvoirs publics, mais au moins des banques.
Je pense que les entrepreneurs eux-mêmes peuvent se prendre en main, ce qu'on a entendu plusieurs fois ce matin. Moi, je dis, se plaignent tous. Pas de financement pour les PME. Nous sommes 3 millions de PME en France. Si chacun ne mettait que 1 000 euros dans le panier, il y aurait 3 milliards. On pourrait commencer par faire quelque chose de sérieux, parce que ce que je fais, je suis encore le petit pousset du financement en France. Un capital initiatif par région me ferait du bien, mais je répète ce que disait Gérard Nicou il y a des années, qui parlait un peu comme moi. Il disait agir plutôt que de gémir. Et je pense que là, il y a un réveil qui peut se faire, et moins de contraintes, ça c'est évident, on l'a assez dit maintenant dans la journée.
Joseph, tu as fait justement sur... alors, nous avez parlé bien sûr de l'industrie, et vous avez participé d'ailleurs à... Je crois que Paris a été la capitale hein, de la lutte contre les déchets plastiques il y a encore une semaine. Enfin, il y a eu beaucoup de débats à ce sujet. Vous avez participé à des émissions également chez d'autres confrères. Est-ce que vous avez un sentiment justement que le plastic bashing est en train de diminuer ou pas trop ?
Le plastic bashing est un concept français. Hein. C'est, je vous le dis clairement. Hein,
quand vous sortez, pas ça ailleurs.
Bah, en fait, quand vous sortez, personne ne dit qu'il n'y a pas de pollution, on va dire par déchets. Mais c'est pas les solutions qui sont, on va dire, proposées par les autres pays ne sont pas les mêmes que ce que la France prévoit. C'est-à-dire que nous, moi, je suis très souvent à Bruxelles. On voyage. On va même récemment, je veux dire, au Maghreb pour notamment pour du recrutement pour nos entreprises en France. J'y reviendrai d'ailleurs si vous m'autorisez tout à l'heure sur ce sujet-là. En fait, on n'a pas du tout la même perception du plastique que ce qu'on a en France aujourd'hui. Hein. En France, de toute façon, la chasse, le plastique, les avions, enfin, j'ai envie de dire, on a toute une liste, on va dire, de types d'industries dans lesquelles on est quand même très bon, qui sont vraiment attaqués, et je le redis, de manière assez suspecte. Vous parliez du traité, c'est quand même assez intéressant, c'est qu'effectivement, le gouvernement pensait que ce traité, enfin, l'étape, hein, c'était juste une étape à Paris, à l'UNESCO à Paris, il y aura une autre étape au Kenya. Et il y a le traité, au final, il sera en 2025, fin 2024. Mais ce qui est intéressant, c'est que la France attendait effectivement que ce soit effectivement un énorme succès. Bon, on se rend compte quand même que le plastique, c'est quand même le matériau qui arrive à réunir des pays qui peut-être ne sont pas, on va dire, très amis en temps normal, hein, notamment les États-Unis, la Russie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Inde, etc. Donc vous avez quand même les 4/5 de l'humanité qui viennent dire non, nous, le plastique, on en a besoin pour le développement et à un moment donné, on veut continuer. Et vous avez la France avec, on va dire, un petit groupe d'États qui, et pas l'Union européenne d'ailleurs, moi, le programme de l'Union européenne n'est pas du tout, on va dire, le même que la France à notre sens, qui essaie de faire encore jeu à part. C'est toujours la même histoire, c'est d'essayer de faire plus blanc que blanc. Mais le problème, c'est que pour pouvoir donner des leçons, il faut pouvoir aussi, on va dire, être crédible. Vous ne pouvez pas venir dire à l'Allemagne, par exemple, qui est à peu près, on n'est pas loin de 50, où ils recyclent 50% de leurs emballages et où il n'y a pas de décharge. Je prends l'exemple de l'Allemagne, il n'y a aucune décharge en Allemagne, ils ont interdit ça. La France, avec ses 21% de recyclage des emballages et c'est à peu près 30 et quelques pourcents de décharge et le reste en incinération, il ne peut pas venir dire « moi, je vais vous donner des leçons sur le plastique ». Ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut effectivement, on va dire, devenir raisonnable, comprendre qu'à un moment donné, et c'est nous, c'est toute notre inquiétude, c'est pas de se dire « est-ce qu'il y aura du plastique demain en France ?» Il y en aura. La seule question, c'est qui va le fabriquer. C'est tout. C'est, je veux dire, à la fin, si nous, on arrête de le faire, les emballages, il y aura des emballages qui seront faits au niveau européen. Et d'ailleurs, j'avais abordé un petit peu le sujet juste avant l'émission avec vous, c'est qu'en plus, au niveau européen, il y a ce qu'on appelle la taxonomie verte, qui effectivement est en train d'être mise en place pour justement différentes catégories de secteurs. Et en l'occurrence, il faut savoir quand même que l'utilisation de plastique recyclé, alors à très haute dose, très concrètement 65% dans des emballages, va être considéré comme contribution essentielle à l'économie circulaire, c'est-à-dire on rentre dans la finance verte. Donc c'est quand même très très important. La Commission, même dans les emballages à usage unique. Hein. Donc ça, en l'occurrence, c'est très très important par rapport à ça. Et donc en termes de stratégie, je veux dire, moi je mets à la place des entreprises, effectivement, ce que je vais chercher, c'est d'avoir de la matière recyclée. Or, pour avoir de la matière recyclée, il faut avoir une industrie du recyclage. Ce que chose en France aujourd'hui, on a de manière assez limitée parce qu'on ne recycle quasiment que les bouteilles d'eau.
Donc retard à l'allumage, une fois de plus, pour
organiser. On est en retard. On essaye de rattraper.
C'est impossible, ça se fait. Il y a des initiatives quand même.
Il y a des initiatives étrangères. Je salue, merci les Américains, c'est encore eux qui viennent débarquer en Normandie pour nous sauver, parce que vous avez quand même la plus grande usine de recyclage chimique du monde qui va être installée en France. Donc Eastman, vous avez d'autres acteurs, Loop, etc., qui y sont. J'ai parlé de Carbios également, qui est très bien. Vous avez également beaucoup d'entreprises, des PME, un tissu de PME. Aujourd'hui, la semaine dernière, j'étais dans une entreprise qui s'appelle Réviplast, dans le Limousin, qui recycle en fait ce que les autres ne recyclent pas, c'est-à-dire vraiment. Des produits que les grands du recyclage ne veulent pas. Total Energy investit énormément également dans le recyclage. Donc on va dire, on part dans le bon sens, mais à un moment donné, et je le redirai à chaque réunion que j'aurai avec vous, il nous faut de la visibilité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à une entreprise d'investir dans du recyclage et d'arrêter, par exemple, il y a certaines boîtes en France qui font du recyclage et de l'incinération, et de leur dire, écoutez, arrêtez un peu l'incinération, commencez à être un peu plus recycleur. Mais ils vont dire, oui, mais le gouvernement m'a dit que dans 15 ans, il n'y a plus de plastique à usage unique, je fais comment? Est-ce que ça vaut le coup que je paye des machines qui vont mettre 15, 20, 30 ans à se rentabiliser? Donc nous, on essaie de leur faire comprendre que ce que le gouvernement français veut n'arrivera jamais. C'est une utopie, je l'avais déjà dit, une fake news, très concrètement, parce qu'au niveau européen, ça ne passera pas. Mais il faut à un moment donné que le gouvernement dise et acte les choses, dise, écoutez, non, on s'est trompé, on pensait que, non, on vous a dit qu'en 2040, il n'y aurait plus de plastique à usage unique. Il y en aura, mais la question, c'est qu'il y en ait de mieux éco-conçu, mieux collecté et mieux recyclé. C'est tout.
Marc-Antoine Jamais, je vous ai vu prendre des notes pendant l'intervention.
Je prends des notes.
Ce que je retiens, ce que dit Joseph, c'est si nous on le fait pas, de toute façon ça sera produit ailleurs.
Oui, enfin.
Peut-être avec des choses encore plus polluantes finalement et des normes qui seront pas les nôtres.
Peut-être, mais je crois en effet qu'on a le génie de s'emparer de débats qui ne sont pas les nôtres. Je prends le cas du luxe. Il y a eu 4 sujets qui sont intervenus en termes d'écologie, d'environnement, de transition écologique. Le premier, c'est l'obsolescence programmée. Moi, je me suis retrouvé pris dans ce sujet, alors même que le luxe, c'est le principe même de la durabilité. Je me souviens qu'Yves Carcel m'avait offert, le président de Vuitton, un cartable quand je suis rentré dans le groupe LVMH en 2001. Je crois avoir toujours le même, ce qui me donne d'ailleurs un petit côté enfantin, mon cartable à la main. Voilà, donc c'est pas le débat. Deuxième chose, on est venu nous chercher également sur les invendus. L'invendu, c'est le contraire absolu du luxe. C'est les séries courtes dont, en règle générale, toutes se vendent. On a été nous chercher également sur les 4 débats que vous venez de dire, parce qu'on les connaît. Eau, énergie, carton, plastique. Dans chacun de ces domaines, on essaie de faire des efforts avec une formule, on a emprunté notre activité à la nature, on va la lui rendre. Donc on essaie de faire des efforts. Et il y a cette espèce de masochisme français qui consiste à se taper dessus très fort. On n'y arrive pas, etc. Et avec en effet cette très grande liberté dans les autres pays, on ne voit pas les mêmes sentiments dans la classe politique ou dans l'opinion publique, alors qu'aux entreprises, ce qui nous amène à penser surtout que le problème, c'est que la France n'est pas assez business friendly. Et j'en veux un exemple. Il y a une chose absolument extraordinaire. Il y a une statue au centre de Paris qui est une statue qui a été faite par une artiste japonaise très connue qui s'appelle Kusama. Cette statue, elle a été à Londres. D'ailleurs, la maire de Paris l'a regrettée qu'elle ait été à Londres d'abord, qu'elle ait été à Paris ensuite. À Londres, elle a été installée devant un grand magasin qui s'appelle Harrods et elle a été considérée comme un mouvement artistique. Cette grande artiste qui s'était subventionnée par une marque mécénée, une collaboration artistique assez intéressante avec Louis Vuitton, elle a été accueillie, mais véritablement comme un élément supplémentaire. En France, il y a un débat, il y a deux jours au Conseil de Paris, scandaleux, pas possible, que faire, etc. Il faut savoir que l'endroit où elle a été posée est un endroit qui a été aménagé à peu près globalement et à la demande de la ville de Paris et selon ses critères par le groupe LVMH. C'est la renaissance de la Samaritaine, c'est la présence d'un quartier général avec beaucoup d'emplois au cœur de Paris, c'est la présence d'autres entreprises qui l'ont rejoint, je pense à Guerlain, je pense à d'autres, et c'est grosso modo un aménagement urbain qui a été refait. Donc oui à l'aménagement urbain, non à la statue, oui à la culture, mais pas avec l'entreprise, oui à l'art, mais ouais, à condition...
Pas la statue, mais, condition c'est pas visible. Gigantesque, Yokoi Kusama, effectivement, voilà. qui jette cette tache de peinture.
Exactement,
hein, sur la façade.
Et ce qui est drôle, c'est par rapport à ce masochisme dont vous parliez, français, j'ai l'extase, le bonheur, la joie, l'envie, l'enthousiasme, la simplicité anglaise. Nos amis anglais, normalement, ne sont pas tellement connus pour leur simplicité. Ça fait 1000 ans que l'on dit qu'ils sont compliqués, pervers et retors. Là, grande simplicité. Et au contraire, en France, oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout bêtement qu'une personne sur deux qui passe à cet endroit se photographie avec cette statue. Pourquoi? Oh, pour des choses très simples. Il la trouve belle, il la trouve amusante, il la trouve intéressante. Et de voir que cela peut faire débat et qu'au lieu de s'intéresser, il y a ce goût français quand même pour la polémique. Et puis, il y a un petit peu d'entreprise bashing là aussi. On se fait plaisir, hein, je le redis. Nos grands champions seraient fêtés dans d'autres pays. Ils sont parfois brocardés dans le nôtre.
Ouais. Masochisme français, vous avez réagi.
Non, je crois que vous avez raison. Les Français n'aiment pas l'entreprise, c'est un problème grave.
Ils l'aiment au fond d'eux-mêmes, mais comme
pourtant,
ils sont frondeurs,
ils oublient que ceux qui créent la richesse. Et deuxième chose, on est toujours très contents, surtout nous en Bourdou du Rhin, quand des étrangers viennent investir chez nous, il y a un tapis rouge, on leur verse des subventions, on est contents de les voir venir. Vous avez cité d'entreprises dans l'Ouest tout à l'heure qui s'implantent, les journaux sont remplis de cela. Pourquoi les entrepreneurs français ne peuvent pas le faire, eux, en France? Est-ce qu'un Français ne sait pas fabriquer des batteries? Il faut me répondre. Quand un étranger vient, c'est super, c'est génial. Et alors, en termes d'emploi, quand tu lis à la presse, on nous dit, oui, ça coûte 300 000 euros de subvention, mais l'épargne des Français, et au lieu de donner des subventions, est-ce qu'il ne faut pas une participation au niveau de l'État pour que la production reste réellement française? C'est une question qu'il faut se poser et qui est intéressante.
Oui, vous n'êtes pas loin de l'Allemagne. Il y a ce formidable exemple du Mittelstand allemand, ce tissu de petites et moyennes entreprises familiales.
Je connais très bien,
c'est un exemple, c'est quelque chose qu'il faudrait c'est de promouvoir, parce que c'est culturel aussi.
Les Allemands que je rencontre, les PME que je croise régulièrement, il faut dire bien souvent c'est la deuxième ou troisième génération qui est à la tête de l'entreprise. Ça, on le trouve pas. L'entrepreneur français crée son emploi et après lui, on pense même pas vendre. C'est souvent le cas de grandes entreprises artisanales. Et ensuite, quand je vois les banquiers allemands, ils me disent « Attends, c'est bien ce que tu fais en France, là. La PME mieux financée, mais on nous dit il y a des garanties familiales. » Et c'est vrai que ce matin, j'ai entendu Arnaud Montebourg qui disait « financiarisation de l'économie ». Les gens comme Libère ou Aguerre, qui sont des mondiaux, c'est encore une entreprise familiale qui n'est même pas cotée en bourse. T'as cette culture familiale qui est au bord du Rhin, c'est réel, où tu as des entrepreneurs qui durent plusieurs générations, et ces entreprises solides en France, on nous apprend « Attention, ta SARL est tellement en danger, mets les murs à l'extérieur, parce que tu peux être mis à mort par tout le monde, par le banquier, par le fils, par tout le monde. » Donc fais en sorte que l'entreprise soit pauvre pour que tu te prennes bien. Il est impensable qu'un entrepreneur allemand ait l'actif de l'immobilier d'une SCI à l'extérieur de l'entreprise. Tout appartient à l'entreprise, ça paraît normal. Et c'est la richesse d'une entreprise qui peut vivre et survivre, ce qui n'est malheureusement le cas dans notre mentalité de latin français.
Possible.
Vous êtes encore choqué, cher ami, je crois. Non,
pas tellement. Sur les groupes familiaux, je ne pense pas que je sois totalement hostile à votre démonstration, même si je sais, par exemple, que le luxe italien a disparu en partie, ou a disparu, ou a été repris et développé par d'autres, parce que justement, la transition familiale n'était pas possible. Donc, oui, la transition familiale allemande a fonctionné. Non, la transition familiale italienne, souvent, n'a pas fonctionné. À parler des difficultés qu'a pu avoir certains grands groupes automobiles italiens, voilà. Mais en revanche, je peux vous dire, exemplarité, exceptionnalité, excellence, qui est le credo de Bernard Arnault, ces valeurs qui sont des valeurs individuelles deviennent des valeurs familiales, et ces valeurs familiales deviennent des valeurs entrepreneuriales. Et donc, sur l'exemple d'un patronat venu du nord de la France, et qui dit souvent, et qui a raison, qu'il faut que chacun des salariés considère que l'entreprise est également la sienne, oui, cette notion familiale, il y a une notion de constance, il y a une notion de durabilité, il y a une notion de personnalisation des buts, des objectifs, des directions, qui donne une meilleure efficacité. C'est assez clair.
Dans ce que vous avez dit pour l'Italie, c'est vrai pour l'Allemagne maintenant aussi, les premières générations, souvent que le grand-père d'après-guerre qui a la tête, et quand celui s'arrête, le fils ou le petit-fils ne continue pas. Il y a une grosse marque de tracteurs qui a été vendue à John Deere.
Ils sont allés s'exiler
aux États-Unis.
Il y a quelques fourmis qui ont enfanté des cigales parfois. Oui. Mmh.
Et des Chinois investissent beaucoup maintenant dans les entreprises, dans les petites entreprises allemandes. Donc ce qui arrive à l'Italie arrivera à l'Allemagne par faute d'entrepreneurs.
C'est vrai qu'on est tenté patrimonialement aussi de peut-être de vendre. On se souvient de Kuka, hein, les robots allemands qui ont été vendus. Bon, voilà, il faudrait essayer de préserver effectivement notre tissu et nos talents. Un dernier mot de conclusion. On va faire un petit tour de page et puis après, ce sera le moment de conclure. Joseph Taïfé, justement, sur ce que vous vouliez dire, nous faire passer comme message par rapport à votre industrie.
Vous avez prononcé le mot talent, parce qu'en fait, on a aujourd'hui la problématique que les entreprises, alors pas seulement de la plasturgie d'ailleurs, mais dans beaucoup de secteurs industriels, c'est le manque de main-d'œuvre aujourd'hui. Hein. On a des gens qui vont partir à la retraite, on a des départs à la retraite de manière de plus en plus importante. Vous avez la crise Covid et qui a entraîné, on va dire parfois pour certains salariés, le désir de changer complètement de vie. Et en fait, si panne de production, j'ai envie de dire, il y a parfois dans certaines usines et qui sont obligés de s'arrêter, c'est parce qu'ils ont personne pour pouvoir subvenir, on va dire, aux commandes. Et il y a des machines qui sont à l'arrêt. Et nous, en l'occurrence, on voit qu'est-ce qu'on fait. On essaie de voir les lycées professionnels. Les lycées, ils disent, écoutez, nous, on va bientôt fermer aussi nos classes parce qu'on n'a pas assez d'élèves. Parce qu'en fait, les gens, ça les intéresse pas de travailler dans l'industrie. Et on a essayé de trouver une solution pour nos entreprises. Et on est allé, c'est l'expérience qu'on a vécue tout récemment en Tunisie, dans laquelle on a été reçu par la Chambre de commerce et d'industrie de Tunisie, en présence du consul général de France d'ailleurs, en présence également de la représentante de l'Office de l'immigration au titre de l'ambassadeur de France. Et en fin de compte, on a noué un partenariat pour l'emploi. C'est-à-dire qu'on a noué un partenariat pour l'emploi et on s'est dit, écoutez, on a des besoins de main-d'œuvre en France. Il y a peut-être chez vous des gens qui aujourd'hui sont disponibles pour travailler. Est-ce que ce serait pas mieux pour tout le monde qu'on puisse éventuellement faire correspondre un petit peu les besoins par rapport, on va dire, aussi aux besoins en français. En l'occurrence, on a des jeunes et on a rencontré des chefs d'entreprise qui sont venus vers nous. Il y a quatre entreprises qui nous ont accompagnés, tout secteur, hein, aéronautique, automobile, produits finis et santé, et qui ont rencontré des jeunes, mais motivés. C'est-à-dire que les gens disaient, moi je suis technicien de maintenance, pour ceux qui connaissent un peu le milieu industriel, vous savez que les techniciens de maintenance, c'est très très difficile d'en trouver, des outilleurs, j'ai une boîte qui cherchait un sellier pour faire du cuir, pour des intérieurs d'avions, c'est très compliqué d'en trouver, et en l'occurrence, là il y avait des candidats, mais formés, avec des réelles compétences, francophones, donc totalement intégrables immédiatement, et qui aiment l'industrie. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la même mentalité. Ils disent, moi, je suis fier de travailler, ou j'ai fait des études et je veux travailler dans l'industrie plastique française, ou actuellement, je travaille dans l'industrie plastique tunisienne, mais je souhaiterais bosser éventuellement en France, ou éventuellement faire ce qu'on appelle la migration circulaire, que l'Europe également soutient par rapport à ça. Et aujourd'hui, on a réussi à trouver effectivement, on va dire, quelques solutions. Mais, on est dans une situation dans laquelle, pour éviter que nos entreprises françaises délocalisent à l'étranger, on est obligé effectivement d'aller chercher parfois des étrangers pour que nos entreprises françaises restent en France.
Des talents,
mais à cause justement d'une politique qui, et ça remonte à l'éducation nationale aussi, d'une désindustrialisation un peu de l'éducation nationale, le fait d'envoyer tout le monde vers les services et l'Internet et toutes ces choses-là.
À l'heure, vous savez, de l'intelligence artificielle qu'on nous promet comme la prochaine révolution, peut-être qu'il y aura une revanche de l'artisanat et de ses métiers. Marc-Antoine Jamais, vous y croyez ?
J'y crois, mais si on doit conclure, moi je voudrais conclure sur trois débats. Il y en a un premier qui est étonnant, c'est que quand on parle du groupe LVMH, on dit parfois surprofit dû à la crise. En quoi le groupe LVMH qui n'est pas dans l'énergie, en quoi le groupe LVMH qui a fermé l'ensemble de ses réseaux en Russie, en quoi le groupe LVMH qui parfois importait, je pense aux cosmétiques, certaines huiles d'Ukraine, a bénéficié de quoi que ce soit. Et soudainement, on est mis au même rang que d'autres qui ont pu en effet être dans une situation objective qui a permis que, essor du commerce international, crise de l'énergie, de gagner de l'argent. Premier débat. Deuxième débat, moi j'entends sur tous les bancs des assemblées le groupe LVMH qui ne paye pas d'impôts. Le groupe LVMH est juste le premier contribuable français, verse 5,5 milliards d'impôts sur les sociétés, 2,4 milliards de TVA, verse l'équivalent de 22 hôpitaux parisiens, de 10% du régime famille de la sécurité sociale, et néanmoins il y a encore des gens qui croient qui disent « Ah mais vous ne payez pas d'impôts
».
Et la troisième chose qui est assez folle, qui est de considérer que vraiment c'est la France subie ou je ne sais quoi. D'abord, il n'y a pas dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen l'obligation d'acheter un sac à main. Ça n'y figure pas. Donc chacun est libre. Deuxièmement, ce qui est drôle, ce sont les mêmes qui disent les centrales nucléaires c'est pas bien, les avions c'est dangereux, les voitures c'est polluant, qui ont à redire sur des produits qui viennent quand même en règle générale de la nature et du territoire. Ils devraient plutôt les encenser. Et puis surtout, à la fin, il faut quand même se rendre compte de trois chiffres qui me paraissent fondamentaux. Le groupe LVMH vend 5% de ses produits en France. Et il les vend souvent à des personnes qui sont touristes ou étrangères. La deuxième chose, il paye 50% de ses impôts en France. 5% de vendus, 50% de ses impôts. Alors qu'il faut bien savoir que M. Xi Jinping, on le comprend, d'autres également, M. Modi, estiment que quand on vend quelque chose chez eux, bah c'est plutôt chez eux qu'on devrait payer des impôts. Donc ça peut parfois se comprendre, parce qu'on nous dit « mais pourquoi pas 100% ?» Bah, elle expliquait à tous les autres pays que la base fiscale ne serait qu'en France. Et troisième chose, on a 100% de nos productions qui sont en France et en Europe. 5% de nos produits vendus, 50% de nos impôts payés, 100% de nos... Voilà. Et donc, quand on disait tout à l'heure, c'est un peu le but de cette émission aussi, de réconcilier les Français avec l'entreprise, si simplement on avait ce discours de vérité que vous me permettez de faire sur la réalité des choses, je pense qu'on aurait des gens qui auraient été plus ouverts. Malheureusement, on a souvent un discours qui est à côté de la vérité.
Voilà, bah là aussi, c'est notre rôle, à nous aussi, médias, de vous faire parler, vous qui êtes à la tête de ces entreprises grandes, moins grandes, effectivement, avec des fois, effectivement, des idées reçues pour réconcilier les Français avec l'entreprise. Voilà, vous nous avez dit, je n'aime pas l'entreprise. Moi, je pense qu'on l'aime et surtout, on aime bien quand on commence à comprendre les rouages. Un grand merci à nos trois invités du jour, Marc-Antoine Jamet, Joseph Taïfé et René Hans.
Comment expliquer la panne de production française ? Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 14 juin 2023.